savoir ce que c'est exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Sophie Tourlotin.
Ah, découvrir un film sur grand écran, ressentir cette pincée d'excitation quand le noir se fait et qu'on partage une émotion comparable avec des inconnus dans l'obscurité d'une salle de cinéma. Cela vous manque sans doute, cela nous manque assurément. Mais en ces temps de Covid et de fermeture prolongée des salles un peu partout dans le monde, on ne peut guère qu'entretenir le souvenir et attendre des jours meilleurs. Et en attendant justement, les plateformes nous jouent la musique des sirènes. Elles s'appellent Netflix, Amazon Prime, HBO Max, OCS ou Disney+, et on les présente comme les grandes gagnantes du confinement mondial. Mais il existe des alternatives à ces géants américains du numérique. On peut aimer les films d'auteur et de patrimoine et ne pas tout déléguer à un algorithme anonyme. Aujourd'hui, nous vous présentons des solutions alternatives, des plateformes de vidéos à la demande ou par abonnement. Nous recevons en studio Vincent-Paul Boncourt. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de Carlotta Film et vous avez lancé il y a quelques mois le ciné-club Carlotta, le meilleur du cinéma de patrimoine de votre catalogue. Alexandre Piovesan, bonjour.
Bonjour.
Vous avez créé une chaîne YouTube consacrée aux films africains et elle s'intitule Africa Chose. Et en ligne, Jean-Baptiste Viau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le délégué général de la Cinétech, plateforme créée par des cinéastes pour les cinéphiles et qui célèbre actuellement ses 5 années d'existence. Mais alors tout d'abord, on part en Côte d'Ivoire où, figurez-vous, les salles sont ouvertes. S'il y en a bien un pays, c'est en Côte d'Ivoire. Le film La Nuit des Rois, réalisé par le cinéaste franco-ivoirien Philippe Lacote, est sur les écrans depuis le 4 décembre, après avoir été sélectionné à la Mostra de Venise. Sa diffusion reste faible. Le pays compte 4 complexes de cinéma, tous à Abidjan. Néanmoins, les étudiants du cycle cinéma audiovisuel de l'Institut National des Arts et de l'Action Culturelle d'Abidjan se sont pressés pour se rendre dans les salles obscures à la découverte d'un film qui évoque en filigrane l'histoire contemporaine de la Côte d'Ivoire post-guerre. François Hume Ferkataji les a rencontrés entre un cours de scénario et d'histoire du cinéma.
Après L'âme du tigre en 2016 ou Run en 2014, Philippe Lacote nous plonge dans un huis clos au cœur de la plus grande prison de la sous-région, la maison d'arrêt d'Abidjan. Les étudiants de l'INSAC ont reconnu la patte du réalisateur, Moussa Bakayoko, est en licence 2.
Je retiens simplement que c'est Philippe Lacote tout court parce que dans ce film, il y a la narration avec l'histoire que Romain raconte à travers le film. Il y a aussi la crise, la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire qu'on a connue en 2011 avec l'histoire des Amas parce que c'est une histoire vraie. Et il y a aussi le jeu d'acteur, parce que à chaque fois que Romain parlait, il y avait des exceptions corporelles à côté, voilà. Et puis on trouve aussi, il y a la société, les prisonniers, comment ils vivent, et puis tout ça.
Le thème de la prison, des conditions de vie, mais aussi la façon dont ces prisonniers recréent les codes d'une nouvelle société entre quatre murs, a particulièrement touché les étudiants Arthur Condé et Dade Kinatio.
Pour moi, c'était un très bon film, déjà parce que là, l'auteur a essayé de faire connaître aux yeux du monde ce que l'on ressentait dans les prisons, ce que l'on vivait dans les prisons, en fait. En tout cas, vraiment, le film m'a vraiment touché personnellement.
J'ai vu un peu ce qui se passe dans nos prisons ici en Afrique, parce qu'on est en Afrique, mais on n'a pas l'occasion toujours de voir ce qui se passe dans les prisons. Et aujourd'hui, à travers ce film de Philippe Lacote, j'ai pu voir cette réalité-là et puis j'ai vraiment aimé.
Avec son scénario à tiroir où les récits s'entremêlent, certains de l'ordre de l'imaginaire ou du fantasmagorique, le film a aussi laissé de nombreuses questions ouvertes, Kimo Massoni et Oro Anchefidel.
Bon, à dire vrai, je n'ai pas tout compris. Voilà, j'ai pas bien compris le film, mais en tout cas, ça m'a plu. Le jeu des acteurs était bien interprété, en tout cas, j'ai aimé.
À travers ce film, d'abord Philippe Lacote nous parle un peu de la culture, un peu de l'histoire de la Côte d'Ivoire, et puis de la crise post-électorale que nous avons eue en 2011 ici en Côte d'Ivoire. Et en même temps, il entre dans l'univers des microbes. les microbes qui ont vraiment semé la zizanie ici en Côte d'Ivoire, tout ça. Donc, il nous montre un peu comment c'est et il nous montre la finition de ces personnes-là.
Parmi les étudiants de l'INSAC, l'un d'eux a eu la chance de participer au film en tant qu'acteur. Il s'agit de Cocola Prince Arthur Ronan. Il a 22 ans, il nous livre ses impressions.
Le film La Nuit des Rois, c'est un truc de ouf en fait. Avant, pendant le tournage et après, il y a tellement de choses qui sont passées, tellement de choses agréables. Ça nous a forgé cinématographiquement en expérience, en découverte. Parce qu'en fait, on a côtoyé de grands acteurs tels que Steve Tienthieu, Denis Lavant, qui on le classe comme une de la guest en fait. Et on a reçu des conseils de ces gens-là qui, aujourd'hui, nous forgent, aujourd'hui, nous rendent meilleurs. La Nuit des Rois, pour moi, c'est une grâce en fait. C'est une grâce d'avoir participé à ce projet-là, à ce film-là. Et j'en suis ravi. Voilà.
La Nuit des Rois, en référence à la pièce éponyme de Shakespeare, a motivé les étudiants à continuer dans la voie du cinéma. François Humfer-Kataji, Abidjan, RFI.
La Nuit des Rois de Philippe Lacote, sélectionné à la dernière Mostra de Venise, est donc actuellement en salle en Côte d'Ivoire et on l'espère prochainement en France. Alors Alexandre Piovesan, est-ce que ce type de film, bon c'est La Nuit des Rois là, il va suivre son schéma d'exploitation habituel, mais est-ce que dans quelques années on pourrait le retrouver sur votre chaîne YouTube Africa Chose?
Ah oui, absolument, absolument. Bien sûr, j'ai des règles de travail. On doit faire un contrat avec le producteur et bien être calé là-dessus. Mais quand tout est réglé au niveau légal, ça m'intéresse. Moi, je diffuse. Ça touchera beaucoup de monde qui ne vont pas au cinéma.
Justement. Et c'est pour ça que vous avez eu l'idée de lancer cette chaîne. Donc, on le rappelait, vous me le disiez hors antenne, YouTube, ce n'est pas une chaîne, effectivement, c'est pas de la VOD, c'est pas... Il peut y avoir un abonnement, mais ce n'est pas
voilà,
une chaîne par abonnement.
Il y a une formule d'abonnement sur YouTube, elle n'est pas généralisée dans le monde. Les gens regardent le contenu sur YouTube de façon gratuite.
Donc vous, quand vous avez lancé cette chaîne, c'est parce que vous trouviez que ça manquait? Qu'est-ce qui vous avait donné envie?
En effet, que ça manquait, c'était pas le principal argument. En fait, moi, j'ai produit de la musique et j'ai commencé il y a une dizaine d'années à distribuer de la musique africaine. Et je me suis aperçu que lorsque je mettais des vidéos musique des artistes sur la chaîne YouTube, ça augmentait le nombre d'écoutes et de téléchargements de ces musiques. Et donc j'ai trouvé qu'il y avait là un marché intéressant. Et petit à petit, en testant, j'ai commencé à développer Africa Show en récupérant des films, en faisant bien attention d'avoir les droits. Et ça a marché, ça marche. Donc voilà.
De fil en aiguille. Cette semaine, tous les cinémas du monde se penchent sur les alternatives aux géants du numérique qui permettent aux cinéphiles, aux cinéphages, en manque d'écran noir, de profiter du cinéma confortablement installé dans leur salon sans avoir à faire la queue ou prendre une baby-sitter. On dit que les plateformes de streaming ou de vidéo à la demande sont les grandes gagnantes du confinement. Vincent Paul Boncourt, vous avez lancé le Vidéo Club Carlotta fin mars dernier. Mmh. Est-ce que donc c'est, j'imagine, un projet qui était dans les cartons, c'est pas le confinement qui
vous a poussé à
le faire?
Heureusement, malheureusement, c'est tombé à un moment où c'était donc fin mars, on a lancé notre plateforme VOD en pleine continuation de toutes les activités qu'on a autour du cinéma et du patrimoine en salle, en vidéo, en télé, etc.
Oui, parce que
etc.
vous restaurez des films, vous les distribuez en salle.
Voilà, notre premier métier, c'est distributeur salle. On a démarré comme ça, Carlotta, il y a 22 ans. Après, on a prolongé par le DVD, le Blu-ray, maintenant le dématérialisé, mais tout en ayant l'ensemble de cette activité-là et créant des passerelles de l'un à l'autre. Et donc cette plateforme a été créée fin mars et ça faisait un long moment qu'on se posait des réflexions puisqu'on travaille avec l'ensemble des plateformes indépendantes surtout et celles qui sont intéressées par le profil de film qu'on a. Mais on souhaitait aussi avoir notre propre canal de diffusion et d'avoir notre propre plateforme qui nous corresponde et essayer d'apporter quelque chose un peu de différent par rapport à ce qui existe déjà. C'est pour ça qu'on a créé une plateforme par abonnement, là. Donc, c'est en SVOD, comme on dit, abonnement VOD, et un forfait mensuel pour lequel on propose un certain nombre de films du catalogue Carlotta, de l'actualité, des avant-premières, et plus être pas dans l'opulence du nombre de films, mais guider les spectateurs avec le réalisateur du mois, les grands classiques, les incontournables, des raretés, les documentaires. Je crois beaucoup à ce côté curateur de guider le spectateur, quel que soit, que ça soit matérialisé ou dématérialisé, mais ça me semble très important, surtout quand on travaille sur près de 120 ans d'histoire du cinéma.
Le guide, hein, c'est aussi une ligne de la Cinéthèque, Jean-Baptiste Viau. Donc la Cinéthèque qui célèbre, là, je crois, ces temps-ci, ses 5 ans, et qui a été lancée par un collectif de cinéastes qui, en fait, proposent leur coup de cœur, leurs films ou les films qui les ont inspirés.
Oui, bah absolument. Je rejoins tout à fait Vincent quand il dit que la curation est importante, et c'est comme ça que le principe éditorial de la Cinéthèque est né. Je rappelle très rapidement ce qu'est la Cinéthèque, qui, comme vous le dites, a 5 ans d'existence depuis le 5 novembre de cette année. En fait, ça a été créé par Pascal Ferrand, Cédric Clapiche et Laurent Canté en novembre 2015 pour répondre en fait à l'absence, dans le cadre d'une offre en ligne sur les plateformes de vidéo à la demande, de grands films du XXe siècle, des grands films du patrimoine qu'ils avaient aimés, qu'ils les avaient constitués, qu'ils les avaient pourquoi pas aidés dans leur propre filmographie à eux. Et on se rendait compte qu'il y avait une petite carence comme ça qui existait dans le cadre d'une offre légale. C'était un travail qui a été fait par la télévision jusqu'au début des années 2000, puis qui ensuite a été un petit peu abandonné. Alors bien sûr, il y a un travail en salle formidable qui est fait par un certain nombre de distributeurs, notamment Carlotta bien sûr. Mais c'est vrai qu'en ligne, c'était pas encore ça. Donc c'est pour ça que le site a été lancé. Et le principe, c'est que tous les mois, on a un réalisateur ou une réalisatrice qui vient de n'importe où dans le monde et qui nous soumet sa liste de 50 films préférés du XXe siècle et jusqu'à 2005. Voilà, notre définition du cinéma de patrimoine à l'heure actuelle, c'est les films qui ont plus de 15 ans par rapport à l'année dans laquelle on est actuellement. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec environ 90 listes de réalisateurs et réalisatrices qui composent un catalogue de 1500 films disponibles en TVOD, pour le coup, donc des locations ou de l'achat à l'unité. Et en plus de cette TVOD, on a aussi une petite offre par abonnement, SVOD donc, qui s'appelle la sélection du mois. Et en fait, on va piocher tous les mois comme ça 10 films dans l'intégralité du catalogue de films disponibles pour constituer une petite sélection thématique qu'on propose aux utilisateurs abonnés pour 2,99€ par mois.
Voilà, donc des belles idées de cadeaux à mettre sous le sapin. Et c'est une nouveauté de Noël, justement. Les chanteurs Pierre Lapointe et Mélissa Lavaux pour Noël Lougain.
Chérie, où c'est en chaîne, où sont Lougain, où Gakouna, où sou. Chérie, où c'est en chaîne, côté amis, toute sa graisse est en sur miel. La guetage tout va tout nous mêler pour tout. Donne-moi ta joue pour un soir, mon oeil filou. Donne-moi ton cou pour un soir, Noël loup-garou.
Alexandre Piovesan, Vincent Paul Boncourt et Jean-Baptiste Viau, on parle donc des plateformes ou des chaînes, en l'occurrence chaîne YouTube, gagnantes du confinement. Est-ce que c'est le cas on peut peut-être commencer avec le Ciné-Club Carlotta, lancé fin mars.
Bon, nous, on est une jeune plateforme, donc c'est récent. C'est sûr que quand on est sorti, quand on a mis en ligne fin mars, c'était au tout début du premier confinement. Donc forcément, il y a eu un attrait plus fort sur tout ce qui était VOD, chaîne de télé, surtout qu'on était dans un confinement quand même beaucoup plus dur que le deuxième dans lequel on est, je crois, sorti. Mais d'ailleurs, on voit qu'au deuxième confinement, il n'y a pas du tout le même rapport à la télévision, film qui passait à la télé, à la VOD, parce que déjà, bah, les enfants allaient à l'école, on travaillait, on travaillait aussi au premier, mais encore plus, on nous aidait à aller travailler. Donc forcément, je pense qu'il y a eu un impact sur plusieurs mois. Après, c'est vrai que l'un des challenges de la VOD, que ça soit à l'acte et encore plus par abonnement, c'est de garder le spectateur, parce qu'il est tellement sollicité par, il y a énormément, et c'est formidable, hein, d'avoir autant de diversité, de choix, de plateformes, de chaînes gratuites, payantes, etc. En plus de tout le reste qui existe, le support physique, le DVD Blu-ray qui existe pleinement, hein, face au dématérialisé, les salles de cinéma quand elles sont ouvertes. Donc c'est vrai qu'il faut redoubler d'efforts, d'énergie pour que les spectateurs, enfin, ou les spectateurs qui viennent sur votre plateforme restent, d'autres y arrivent, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'offres aussi très, enfin, voilà, avec des offres gratuites, etc. Donc, on sent que le spectateur, le cinéphile est un peu plus versatile et peut aller de l'un à l'autre, arrêter de s'abonner, repartir, revenir, etc. Donc c'est je pense un parmi d'autres, mais un des enjeux importants. Donc c'est vrai qu'il y a eu cette période de premier confinement où il y a eu un afflux chez nous et chez les autres, puis qui a, je pense, un peu baissé par la suite. Donc c'est un travail au long terme qui
d'entretenir
le désir, ce qui est en fait notre travail de distributeur, d'éditeur tout le temps, hein, mais c'est encore autre chose par rapport à la salle ou à la vidéo.
Et vous, Jean-Baptiste Viau, est-ce que vous avez senti un effet à la Cinéthèque?
Oui, tout à fait. Et à peu près pareil que pour le Vidéoclub Carlotta. En fait, on a eu un taux de croissance énorme sur la période du premier confinement, c'est-à-dire entre mi-mars et mi-mai, où effectivement, on a pu profiter. Alors, c'était malheureux, c'était au détriment des salles notamment. Et c'est, je tiens à dire ici qu'on est absolument et totalement solidaire du monde de la culture et de la diffusion en salle, à laquelle on est très attaché. Toujours est-il qu'effectivement, ça a drainé du public et des spectateurs sur la Cinéthèque à partir du premier confinement. On a vu les chiffres vraiment explosé. On faisait fois 6, fois 7 en location à la demande et fois 3 en abonnement à peu près. Effectivement, il y a eu une petite déperdition suite au déconfinement. Ensuite, c'est remonté de nouveau un petit peu pendant le deuxième confinement, pas à la même hauteur, mais quand même. Et effectivement, il faut accrocher le spectateur et le garder par la suite. Je crois que l'opportunité qu'on a eue cette année avec ce confinement et la situation sanitaire actuelle, c'est que ça a permis d'accrocher des spectateurs qui avaient entendu parler de la Cinéthèque, mais qui n'avaient pas encore eu l'occasion de passer le pas, quoi, finalement. Et là, ça leur a donné l'occasion de le faire. Mais comme disait Vincent, il faut absolument continuer à accompagner les spectateurs et sur le long terme. Et je crois que là, je le redis, la réponse à ça, c'est vraiment la curation et l'accompagnement éditorial des films qui sont proposés sur les plateformes.
Et vous, Alexandre Piovesan, donc YouTube, votre chaîne YouTube Africa Show, c'est encore un autre modèle. Je ne sais pas si on peut parler de modèle économique, mais enfin, c'est une autre proposition. Est-ce que vous avez senti un flux plus important ou pas?
Alors oui, depuis le premier confinement, il y a bien eu une augmentation d'à peu près 30-35% du nombre de vues journaliers. Cela dit, la chaîne YouTube en question, Africa Show, elle est destinée donc au cinéma africain. Et le cinéma africain est de toute façon très peu diffusé dans le reste du monde. Et donc, je ne pense pas que...
Et même sur le continent, il n'y a pas toujours beaucoup de réseaux de salles.
Voilà. Donc, je ne pense pas que ce soit le fait de ne pas pouvoir aller au cinéma qui a augmenté le nombre de vues sur ma chaîne.
Announcing the departure of Flight 16 for Barcelona at Madrid.
Oh, did you get my telegram off to Spain for me?
Mr. Ramsbottom, will you please step this way? There's a gentleman waiting to see you.
See me? But what about my plane?
He promised to keep you only a minute.
There's nothing at this late hour.
I want your seat on that plane.
So you can get to talk to Raina before I do? You hired me to buy me off, didn't you? You even thought you could get me to cover up, but you didn't want her to find out.
I want that seat. What's your price?
Too late. Too many people are dead. Zook's dead in my hotel room. Somebody's going to have to hang for that. I don't want it to be me.
If you do see her first, what makes you think she'll believe you?
Grégory Arcadine, un riche maniaque, prétend être devenu amnésique, engage un petit aventurier pour enquêter sur son passé, mais petit à petit, les témoins susceptibles de détenir des informations sont assassinés. Vous aurez peut-être reconnu le pitch, on va dire, le scénario de Dossier secret qu'a Arcadine, un film d'Orson Welles de 1955, un film évidemment sans doute moins connu que Citizen Kane, ou qu'un autre film d'espionnage avec Orson Welles, Le Troisième Homme. Néanmoins, c'est une œuvre majeure de Welles que le ciné-club Carlotta met en avant.
Oui, oui, tout à fait. Là, on vient de le mettre ce mois-ci parce que dans notre formule de ciné-club, on est sur une bonne cinquantaine de films par mois. On alimente au fur et à mesure avec des nouveautés tous les mois, comme en fait un programme d'une salle de cinéma qui programme tel film pendant une période, puis disparaît de l'affiche. Donc, vous avez des nouveautés, des arrêts, etc. Mmh. Et là, on a donné un petit coup d'éclairage à Orson Welles, qui est un cinéaste évidemment qu'on adore chez Carlotta. On a sorti Othello, Monsieur Arcadine, des rares comme ces films faits à travers le monde, voyage autour du monde, qui sont des petits films, des courts-métrages où Welles, qui voyageait beaucoup, filmait constamment, en fait. Et pour revenir à Monsieur Arcadine, c'est un film dont on a les droits, Carlotta sur la France. On l'a sorti en salle il y a quelques années. Il est disponible aussi en DVD Blu-ray. Et on propose, dans un prolongement des droits qu'on gère, et puis de fait de montrer et découvrir à tous les publics et plein de publics, à la fois communs et différents, selon la manière de voir des films, de proposer aussi sur une plateforme dans la catégorie des incontournables, parce que même si c'est un film de Welles moins connu, chaque film de Welles est quand même assez incontournable, et notre rapport et envie sur l'histoire du cinéma, c'est de faire un travail sur des cinéastes, des rétrospectives, travailler l'œuvre du cinéaste et faire découvrir des films ou redécouvrir des films les plus connus. Alors on aimerait bien voir Citizen Kane, on l'a pas, mais on a Othello par exemple, qui est quand même pas des moindres, et puis Monsieur Arcadine qui est moins connu mais qui a une belle cote cinéphilique et qui est un film assez passionnant à voir dans l'œuvre de Welles sur la vérité, le mensonge, outre le côté divertissement évidemment.
C'est un film qui est également présent sur la Cinéthèque, Jean-Baptiste Viau. Il est recommandé par François Truffaut.
Absolument. J'allais dire qu'effectivement, Monsieur Arcadine, c'était un des films préférés de François Truffaut. Il y a environ un an et demi, on a décidé de lancer une nouvelle sous-rubrique sur la Cinéthèque qui s'appelle « Les films de leur vie ». Et en fait, on est parti justement du livre de François Truffaut « Les films de ma vie » qui regroupait un certain nombre de critiques qu'il avait pu écrire au fil du temps. On a pu reproduire du coup cette liste grâce à l'accord de ses ayants droit. Et effectivement, Monsieur Arcadine en fait partie. Et donc, grâce à Carlotta, on a un mandat de distribution sur la Cinéthèque. Donc, c'est un endroit où on peut voir le film aussi. Tout comme Citizen Kane d'ailleurs.
Donc, vos deux plateformes font œuvre presque de cinémathèque. Enfin, en ces périodes où, alors évidemment, ça ne durera pas et on espère tous que ça ne durera pas. Néanmoins, les ciné-clubs, les cinémathèques sont fermées. La télévision classique diffuse très très peu de films de patrimoine.
Non, ils en diffusent. Alors après, Arte qui joue pleinement son rôle et qui fait un travail remarquable sur le patrimoine et qui travaille avec tous les acteurs, distributeurs, éditeurs, des plus gros aux plus petits. Vous avez des chaînes comme Ciné Plus, OCS, avec qui on travaille aussi, hein, qui font un très bon travail éditorial sur le patrimoine qui existe depuis longtemps. Après, c'est plus les France Télévisions où il y a encore, il y a le cinéma de minuit de Patrick Brion qui sort de survivant, Ciné Club qui a lieu sur France 5, mais il manque évidemment une plus grande visibilité et diffusion des films d'auteurs, de patrimoine, et qui en plus fonctionnent. Donc c'est ça qui nous surprend toujours, pourquoi ils ne sont pas plus montrés. Il y a une vraie demande, quel que soit, il y a une demande, quel que soit le support. Donc non, je pense que notre plateforme, la Cinéthèque, d'autres plateformes qui font un bon travail, comme FilmoTV et bien d'autres, c'est une manière supplémentaire de voir des films. Et on sait très bien qu'il y a à la fois des publics communs et des publics différents, mais que découvrir par exemple Mr. Arcadine en VOD à la Cinéthèque ou chez nous sur le Vidéoclub de Carlotta, ça peut amener à donner une envie de découvrir d'autres films d'Orson Welles, mais que ça soit en salle, que ça soit à la télévision, que ça soit en vidéo physique. Donc c'est cette porosité qui est extrêmement forte, je pense, et de donner le goût, l'envie, et de faire découvrir un film d'un cinéaste, d'un genre, et qui va vous donner envie d'en découvrir d'autres, quel que soit le support. Et c'est, j'espère, ce goût-là qu'on transmet avec, par exemple, la présence de Monsieur Arcadine ou de cette curiosité qui sont ses courts-métrages, pour aller voir d'autres choses.
Exactement, moi je suis tout à fait d'accord, ça fonctionne par capillarité et par complémentarité, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs modes de diffusion et l'un ne chasse pas l'autre, bien au contraire, on peut découvrir un film en salle et avoir envie d'explorer la filmographie de son auteur en poursuivant ça en ligne par exemple. Donc voilà, et tout à fait, ça constitue comme ça une cinémathèque idéale qui reste en ligne et qui reste pour toujours, j'ai envie de dire, en complément de tous les autres supports et de tous les autres moyens de diffusion des films. L'idée maîtresse, bien sûr, étant la transmission et la préservation de ce patrimoine cinématographique, quoi qu'il en soit.
Et sur Africa Show, Alexandre Piovesan, il y a aussi des films du patrimoine africain. Je pense à Gimba le Tyran, le film de Cheikh Oumar Sissoko datant de 1995. Voilà, Gimba le Tyran, une tragédie de Cheikh Oumar Sissoko de 1995, grand prix du FESPACO de cette année-là, le festival de cinéma panafricain, est donc disponible sur Africa Show. Alexandre Piovesan, comment vous avez fait? Alors, vous avez discuté avec Cheikh Oumar Sissoko.
Absolument.
Pour obtenir les droits de diffusion du film.
Absolument. Je suis allé voir Cheikh Oumar Sissoko. Je lui ai expliqué ma démarche, expliqué notamment que sur YouTube c'est une adresse internet, mais ce n'est pas tout internet que je demande, mais c'est simplement le droit de diffuser sur ma chaîne. Et il m'a confié son film en anglais, sous-titré en français, enfin sous-titré en anglais, sous-titré en français, en espagnol, en portugais et en arabe.
Oui, parce que c'est un
film diffusé en bambara. Et ça, on a dépassé le million de vues sur son film. Donc il y a eu vraiment un vrai engouement pour son œuvre.
Et qu'est-ce qui l'a séduit, lui? C'est le fait que justement son film puisse être visible partout dans le monde, mais notamment aussi sur le continent, où, comme on le sait, la diffusion, la distribution des films africains n'est pas toujours facile.
Il faudra que je lui pose la question. Mais je pense que ce qui l'a intéressé, comme tout artiste, c'est que son œuvre soit vue, sans que ça lui porte préjudice. Et en l'occurrence, c'était le cas.
Alors, c'est gratuit quand on est internaute. On peut donc voir sur Africa Show Gimba le Tyran. Mais comment vous rémunérez la question des droits? C'est au nombre de visionnages, c'est ça?
Non, pas exactement. En fait, sur YouTube est diffusée de la publicité. Et YouTube reverse une partie de ses droits publicitaires que je partage avec les producteurs qui me confient les droits. Ils en ont la plus grosse part.
Après, sur Africa Show, il y a certains films, par exemple, moi, que j'ai voulu regarder, mais vous n'avez pas acquis les droits, par exemple, pour la France, et moi, je ne pouvais pas les voir, c'est ça?
C'est possible, absolument. Donc, effectivement, sur YouTube, on peut décider quel territoire, quel pays pourra diffuser ou pas.
Donc, mais dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, enfin, ou la totalité des pays d'Afrique de l'Ouest peuvent voir, les internautes peuvent voir les films proposés.
Oui, principalement. J'ai à peu près 7000 contenus. C'est pas 7000 films, mais c'est 7000 contenus. Donc c'est difficile pour moi d'être affirmatif. Mais d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, il y a un réseau, il y a du Wi-Fi, les gens ont peu d'ordinateurs, mais ils peuvent regarder sur leur portable. C'est comme ça, c'est l'usage principal.
Et vous, Vincent Paul Boncourt, Ciné Club Carlotta est proposé en France, mais aussi accessible en Belgique, Luxembourg et Suisse.
Alors quand on a les droits des films, c'est contractuel.
Ouais, c'est ça.
De manière, enfin voilà, on peut avoir les droits que pour la France. Souvent, on a aussi la Belgique, la Suisse, aux francophones. Voilà, donc la formule, puisqu'on n'est pas à l'acte, donc c'est une formule où vous pouvez vous balader et choisir de voir plusieurs films parmi les 50, 60, 70. Si certains films, on n'a pas, par exemple, les droits suisses ou belgiques, ils se retrouvent pas dans la formule d'abonnement du mois. On respecte évidemment le cadre contractuel qu'on a avec les ayants droit. Donc c'est France évidemment, et la plupart des films Belgique et Suisse, mais des fois il peut y avoir des restrictions, comme vous en parliez précédemment, où vous n'avez pas pu voir tel film, hein, par rapport à la géolocalisation d'où vous êtes.
Et vous, Jean-Baptiste Viau, pour la Cinéthèque, c'est une idée, ou c'est la plateforme est-elle accessible ailleurs qu'en France?
Alors à l'heure actuelle, elle est disponible en France, bien sûr, mais aussi en Belgique et au Luxembourg francophone depuis octobre dernier. Et depuis 2019, elle est accessible aussi en Allemagne et en Autriche. Alors justement, la question des droits est une question à laquelle il faut faire attention. Bien sûr, il est hors de question pour nous de diffuser des films pour lesquels on n'aurait pas les droits, et selon les territoires également. C'est pour ça que je rejoins mes camarades. Il y a des films qui sont disponibles en France, mais pas en Belgique et au Luxembourg, par exemple, ou à l'inverse, des films qui sont disponibles en Allemagne, mais pas en France, parce qu'on a obtenu l'accord du distributeur pour l'Allemagne, mais pas pour la France. Donc pour l'instant, il y a ces pays-là. Et pour le coup, l'expansion à d'autres pays, et notamment de l'Union européenne, sont une velléité qu'on a, bien sûr. Mais on y va un pas après l'autre, effectivement, parce que la question des droits est parfois épineuse, et la question de l'acquisition des versions linguistiques aussi, pour les territoires étrangers.
Oui, c'est ça, il faut expliquer à nos auditeurs. C'est pas Internet, c'est pas juste... c'est pas le Far West, en fait. Il existait quelque
ça
part,
des qui.
Frontières.
Ah, voilà, ça dépend pour qui, voilà.
Chez les gens sérieux, c'est pas le Far West, voilà. C'est un peu trop le Far West, avec beaucoup de films, malheureusement, on le sait, hein, je veux dire, qui sont présentés à droite, à gauche, de manière pirate. Et c'est quelque chose pour les ayants droit, pour les distributeurs, de difficile à gérer,
après,
à suivre,
à récupérer.
Mais c'est vrai que bon, bah, il y a aussi quand même très souvent la notion de matériel, la qualité des éléments, sous-titrage, etc., qui est quand même en théorie la meilleure chez la personne qui gère les droits. Donc non, on est très attentif à ça et c'est important. Mais ce qui fait que forcément on a le spectateur peut avoir la personne l'impression que tout est accessible sur Internet. Ça, c'est une fausse idée reçue. C'est comme il n'y a pas tous les films. Il y a des films que vous pouvez voir à tel moment, mais qui vont plus être présents, qui vont se trouver sur une plateforme, mais puisque voilà, vous acquérez les droits sur une durée, qui se trouvent à un moment donné, mais qui vont disparaître, puis revenir ou aller chez un autre. C'est finalement un peu comme la télévision, où, qu'elle soit linéaire ou délinéaire aujourd'hui, vous avez un film qui est présent à un instant T et qui ne l'est plus à un autre moment. Mais aussi, comme je disais, comme un exemple pour être plus dans le physique, comme la salle de cinéma, bah, les films sont pas à l'affiche tout au long de l'année, pendant des années, etc. Ils sont présents, ils disparaissent, ils peuvent revenir s'ils sont réédités, etc. Tout ça est extrêmement vivant. Mais si vous avez voilà, l'édition physique DVD Blu-ray, vous la possédez. Si vous allez d'une plateforme à une autre, vous pouvez trouver. Mais voilà, c'est pas d'un seul coup, tout est disponible.
Mais alors Vincent, vous qui avez commencé effectivement par la distribution des restauration, distribution de films de patrimoine en salle, puis édition hein, de DVD ou Blu-ray, est-ce que vous pensez que les supports physiques ont encore, en l'occurrence, alors je parle pas de la salle, là je parle des supports physiques ont encore de l'avenir?
Bah ils ont de l'avenir actuellement, donc c'est déjà pas mal. Ils ont de l'avenir, je pense, à moyen ou long terme, surtout sur le domaine du patrimoine. C'est vrai qu'on voit que les ayants droit ou les éditeurs, distributeurs qui souffrent le plus par rapport à la baisse, c'est certes du marché de physique DVD Blu-ray, c'est plus la nouveauté, les grosses nouveautés, où là il y a une transformation qui s'est faite sur la VOD à l'acte. C'est-à-dire quand vous louez un film, c'est comme vous louez à l'époque un DVD ou une VHS. Vous le possédez pas, donc c'est pas la même chose. Donc vous voulez juste le voir une fois, vous l'avez vu, puis vous avez peut-être pas forcément envie de le revoir ou de le partager. Ce qui est pas la même chose quand vous êtes sur un DVD, Blu-ray ou en UHD 4K aujourd'hui. Je pense qu'il y a toujours un vrai attrait, notamment de la cinéphilie, de posséder, de garder, de transmettre, d'offrir. Ce qui est pas incompatible de voir aussi les films autrement, hein, y compris en VOD, et d'être sur des beaux objets. Donc ce qu'on développait depuis le début, plus de 20 ans qu'on travaille sur l'édition physique vidéo, c'était déjà des belles éditions, mais encore plus maintenant, et les spectateurs veulent, évidemment, vous avez le film au départ, hein, vous avez envie de le voir, pas le voir, créer le désir, mais ensuite, c'est qu'est-ce qui fait de manière encore éditoriale sur l'objet, la beauté de l'objet, le packaging, les éditions livres, les suppléments, etc. Donc tout ça, c'est, je dirais, c'est la primeur quand même malgré tout, et c'est ce qui reste le plus fort sur la partie physique du DVD Blu-ray, et je pense que ça va rester, surtout dans le travail qu'on réalise, moi et mes camarades éditeurs, hein, sur le patrimoine, sur l'histoire du cinéma.
Voilà, le pianiste canadien Chili Gonzalez qui a livré un disque de Noël, et là, sa version toute personnelle de Last Christmas. Vous êtes bien sûr RFI, à l'écoute de tous les cinémas du monde. Nous sommes toujours en compagnie d'Alexandre Piovesan d'Africa Show, de Jean-Baptiste Viau de la Cinéthèque et de Vincent-Paul Boncourt de Cinéclub Carlotta. Alors, sur ces plateformes ou ces chaînes, il y a des films cultes, alors comme celui-ci, Donnie Darko, un film de Richard Kelly qui date de 2001, un film qui se situe dans l'Amérique de la fin des années 80. Donnie Darko est un adolescent pas comme les autres, il est introverti, perturbé. Il entretient une amitié avec un certain Frank, un lapin géant que lui seul peut voir et entendre.
Wake up, Donnie.
I made a new friend.
Real or imaginary?
28 days.
Imaginary.
6 hours. 42 minutes. 12 seconds. Do you believe in time travel?
I'm going to tell you a little story today about a young man whose life was completely destroyed by these instruments of fear.
Alors, Donnie Darko figure dans la rubrique déjà culte du ciné-club Carlotta. Déjà culte parce que c'est un film qui a 19 ans. C'est quoi un film culte, Vincent Paul Boncourt?
Là, il va falloir, je pense, avoir plusieurs heures devant nous, ou plusieurs intervenants. C'est compliqué à dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que tout est culte. Alors, d'un certain côté, il y a même des films qui, avant même de sortir de son culte, comme tout film est chef-d'œuvre, entre guillemets, mais bon, trêve de plaisanterie, c'est vrai qu'un film culte, c'est un film surtout qui le devient. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je le disais, tout est de plus en plus rapide. Mais ce film-là, Donnie Darko, sort en 2001, marche pas vraiment. Il passe plus ou moins inaperçu. Il y a quelques support journaliste qui relève quand même que le film est un peu à part, différent, mais c'est pas un grand succès. Il sort en salle et puis en fait c'est un film qui devient culte par la vidéo et qui devient un gros succès DVD partout à travers le monde. Et au fur et à mesure des années, il se passe quelque chose sur le film.
Les gens se le refilent sous le manteau un peu, non?
Un peu, oui, les gens en parlent, c'est un film qui marque, et puis il y a toute une génération qui en fait grandit avec le film, mais sans forcément l'avoir vu en salle de cinéma, mais par le DVD qui explosait à ce moment-là. En 2001, c'est l'arrivée du DVD qui est une vraie révolution sur le support physique par rapport à la VHS précédente. En termes de qualité DVD, même s'il y a aussi beaucoup de films cultes qui sont devenus par la VHS, d'où le mot vidéoclub. On sait qu'il y a beaucoup de films de genre qui n'étaient pas forcément nobles au cinéma dans les années 80. Et là, Donnie Darko est le bon exemple dans une époque plus récente, les années 2000, d'un film qui s'est construit avec le temps. Et c'est vrai que quand on le voit aujourd'hui, d'ailleurs même moi quand je l'avais vu dans le cadre de toutes les sorties hebdomadaire, j'avais bien aimé le film, mais j'avais pas été marqué plus que ça. Et c'est en le revoyant, en le redécouvrant, que j'ai vu à quel point le film était incroyable, un très grand film sur l'Amérique, sur l'adolescence, et pas juste le film fantastique, à tiroir, où on comprend pas ce qui se passe, etc. Mais l'ayant revu en faisant l'acquisition du film et en travaillant sur la sortie qu'on a fait l'an dernier, j'ai vu un autre film, et qui est pour moi un des plus grands films sur l'adolescence, peut-être avec Outsider de Coppola, enfin il y en a beaucoup d'autres, mais on est dans ce registre là donc c'est un peu le travail plus contemporain qu'on fait sur travail cinéma plus contemporain. Le film a 19 ans aujourd'hui, quand l'a sorti il avait 18 ans, et un film qui a entre 15 et 20 ans aujourd'hui commence à faire partie de l'histoire du cinéma, et on est dans ce rapport culte et histoire du cinéma.
Sur le site de la Cinéthèque Jean-Baptiste Viau, ce film Donnie Darko, il est conseillé par quatre réalisateurs, hein, Bertrand Bonello, Park Chan-wook, Yann Gonzalez et Catherine Corsini.
Absolument. J'allais préciser ça, effectivement, pour dire que, vous voyez, on parle de films occultes. Effectivement, là, on s'y trompe pas pour Donnie Darko, puisqu'ils sont quatre sur les 90 réalisateurs à l'avoir listé parmi leurs 50 films préférés. Donc, effectivement, il y a quelque chose autour de ce film, un engouement qui s'est construit au fil du temps, même si le film est plus ou moins récent. Et effectivement, c'est intéressant de voir comme ça des films qui se retrouvent au travers de plusieurs listes de réalisateurs qui sont aussi différents entre eux que Bertrand Bonello, Yann Gonzalez, Catherine Corsini ou Park Chan-wook, de dire voilà quels sont leurs goûts, qu'est-ce qui alimente leur cinéphilie. Et là, ça permet de bâtir des ponts comme ça entre les goûts cinéphiliques et les filmographies de chacun.
Donc il y a Park Chan-wook, un grand réalisateur sud-coréen, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des réalisateurs français qui conseillent les films de leur vie sur la Cinéthèque.
Ah non, absolument pas. On avait vraiment à cœur que ce soit des réalisateurs du monde entier, peu importe d'où ils viennent, qui puissent participer à l'aventure de la Cinéthèque en étant réalisateurs associés, c'est-à-dire en proposant leur liste de 50 films préférés. Donc absolument, on va chercher des réalisateurs et des réalisatrices un peu partout dans le monde. Forcément, on a un tout petit peu plus de facilité à approcher les réalisateurs et réalisatrices français dans un premier on a eu beaucoup plus de facilité dans un premier temps à aborder les réalisateurs français, mais depuis on cherche aux quatre coins du monde. Tout à fait.
Et après, une fois que vous avez la liste, vous prenez aussi votre bâton de pèlerin pour aller acquérir les droits. Enfin, je sais pas si c'est ou c'est des droits partagés ou en tout cas aller voir les ayants droit des films en question pour pouvoir les diffuser sur la Cinéthèque.
Oui, absolument. Vous faites bien d'en parler. Vous parlez de bâton de pèlerin. Moi, des fois, je compare mon travail à celui d'archéologue aussi, parce qu'il y a certains films très vieux ou des films étrangers qui n'ont jamais été distribués en France, par exemple, pour lesquels il s'agit de remonter la chaîne des droits, et c'est parfois une tâche qui est très ardue, très longue. On n'y arrive pas toujours, d'ailleurs. Il y a encore quelques films pour lesquels je ne sais pas du tout où se trouvent les droits, donc on ne peut pas les exploiter sur la Cinéthèque. Mais effectivement, à chaque fois que je reçois une nouvelle liste de réalisateurs ou de réalisatrices, je regarde quels sont les films qui n'ont jamais été cités jusqu'à présent, et je me mets en quête des distributeurs ou des ayants droit directement. Mais en tout cas, c'est toujours spécifique.
Alors, vous, de votre côté, Alexandre Piovesan, pour la chaîne Africa Chose, on a entendu tout à l'heure un extrait de Gimba, mais vous proposez aussi des films plus récents. Comment vous repérez les films que vous avez envie de diffuser sur la chaîne ?
Ça se passe pas comme ça. Mon cahier des charges, c'est de diffuser des contenus, que ce soit des films, documentaires, séries, petits films, petites histoires, africains. C'est le seul cahier des charges que j'ai. Donc, bien sûr, je fais attention au contenu, mais le plus difficile, effectivement, comme mes collègues l'ont rappelé, c'est d'obtenir la chaîne des droits, enfin, de définir et pouvoir obtenir les droits avec les bonnes personnes. Sur le cinéma africain, je peux vous dire que c'est extrêmement compliqué. Quand il y a des dossiers, quand il y a des documents, quand il y a des accords de coproduction, c'est presque Noël.
Alors, on peut voir justement sur Africa Show un film plus récent comme ce documentaire, L'irrésistible ascension de Moïse Katumbi de Thierry Michel.
Moïse Katumbi, président du célèbre club de football africain le tout-puissant Mazembe, est un richissime homme d'affaires congolais. Il a bâti sa fortune dans la province minière du Katanga, en République démocratique du Congo.
Ce sont des nouvelles machines.
Mais oui, qui sont arrivées il y a de cela deux semaines. Il y en a 10 au total. Il y a 8 qui sont en route.
Quelle est la valeur d'une machine de ce type-là ?
Il faut compter à peu près 600 000 euros.
Par
camion, oui. Aujourd'hui, nous totalisons une centaine de camions.
Un extrait du documentaire L'irrésistible ascension de Moïse Katumbi et de Thierry Michel, donc que l'on peut voir sur la chaîne YouTube Africa Show, Alexandre Piovesan. Voilà, donc il y a des fictions, vous proposez des courts-métrages et donc aussi des documentaires. Mais par exemple, vous disiez, c'est difficile, comment vous avez ce film-là, par exemple, pourquoi vous avez décidé de le diffuser sur la chaîne ?
Je suis allé au FESPACO, où j'ai rencontré Thierry Michel, et je lui ai expliqué tout simplement ce que je faisais, qu'est-ce qu'on pouvait en attendre, c'est-à-dire principalement voir son film, l'argent qui est généré. Pour vous donner une petite idée, sur YouTube, il faut 1000 vues pour faire à peu près 1 euro 50, 1000 vues. Donc autant dire que c'est pas sur le nombre de vues sur YouTube qu'on va
faire de l'argent.
Bon. Donc il a accepté l'idée tout en balisant absolument la diffusion. Et puis quelquefois, donc ça c'est un exemple, je vais au FESPACO. Quand je suis allé au FESPACO, je suis allé rencontrer Gaston Caboret et je lui ai parlé de mon projet. Et avec son institut Imagine, on a mis sur pied une collaboration où tous les premiers films des étudiants de cinéma sont diffusés sur la chaîne. Et de cette manière, comme elle a quand même beaucoup de téléspectateurs, ça a permis aux apprentis réalisateurs de se confronter à un public, de se confronter à des commentaires, parce que sur chaque film, et c'est ça qui est une particularité de YouTube, le spectateur peut directement intervenir et échanger avec le réalisateur. Et comme ça, il y a des films qui ont pu être vus des centaines et des centaines de milliers de fois.
Donc vous n'êtes pas que distributeur, vous êtes aussi initiateur de projets. Il y a des, et vous me disiez aussi hors antenne qu'il y avait des contenus, notamment en Malinké, qui suscitent énormément, qui sont énormément vus, partagés, qui suscitent des réactions.
Oui, je développe tout particulièrement en Guinée et au Burkina Faso des équipes techniques pour supporter, pour produire du contenu. Encore une fois, on n'en est pas encore arrivé à faire du cinéma, mais à faire des contenus, raconter des histoires qui sont principalement en langue locale. Donc ça va être du Malinké, du Haoussa, du Bambara, du Soussou, du Peul. Et le partage est le même avec ces personnes, mais on développe des contenus, des petites séries qui font un immense tabac. Quand je mets un épisode d'une petite série, disons, de Fanta Beretta, pour la nommer, il va y avoir 100 000 vues dans la journée. Et c'est beaucoup. Donc, 100 000 vues, si on fait notre petit calcul de tout à l'heure, ça ne représente que 100 euros ou 150 euros, c'est rien pour...
En termes d'économie.
Mais
ça crée peut-être aussi une idée de communauté.
Il y a une communauté, il y a une émulsion, et puis lorsque Fanta, par exemple, va produire, grâce à ses soutiens, une dizaine de contenus par mois, ça commence à représenter une petite somme d'argent qui, pour uniquement YouTube, est intéressante.
Oui, et puis c'est peut-être aussi le début de quelque chose. Non, on pense à toute la génération des Truffaut, enfin toute la génération de la nouvelle vague qui est née en étant spectateur dans les ciné-clubs ou à la cinémathèque. Peut-être que là, l'Internet, en ce sens, joue un rôle. Enfin, je ne sais pas si Jean-Baptiste ou Vincent voulaient réagir là-dessus sur le...
Oui, non, forcément, mais en fait, le cinéma, tout simplement, c'est voir des films, que ça soit à l'époque, il n'y avait que la salle, mais la télévision, on a tous grandi aussi, enfin, toute une génération dans la mienne, on a grandi à le ciné-club d'Antenne 2 et Cinéma de Minuit, la dernière séance. Après, les générations suivantes vont grandir autrement, aujourd'hui plus via la VOD, mais aussi d'autres chose. Donc c'est le fait de voir des films qui à un moment donné vous donnent un déclic, soit cinéphilique en tant que vous restez un cinéphile et pas forcément en ayant pas forcément une activité professionnelle sur le cinéma, et puis de d'autres moments vous allez aussi, ça vous amener à travailler dans l'univers du cinéma, que ça soit en tant qu'artiste, créateur ou ça peut être aussi distributeur, producteur, éditeur, etc. Donc cette passion là du cinéma qui se transmet via tous les médias possibles et qui aujourd'hui, c'est vrai, est intense de partout, et je pense qu'il n'y a rien de mieux que de voir des films et de se construire sa propre cinéphilie qui après vous amène sur différents chemins et qui peut amener sur la création et des cinéastes, évidemment.
Jean-Baptiste Viaud, vous vouliez réagir aussi ?
Oui, exactement. Il y a plusieurs manières de voir les films. Évidemment, une de nos manières préférées, c'est de les voir en salle. Mais il y a plein de moyens dont les plateformes VOD font partie. Et il s'agit surtout pour moi de les préserver, ces films-là, de préserver leur mémoire en tout cas, et de les transmettre en les accompagnant, que ce soit la curation ou d'autres moyens, et de faire en sorte que les générations actuelles et futures continuent à voir ces films.
Merci à vous trois, c'est ainsi que s'achèvent tous les cinémas du monde. Merci beaucoup, puisque en ces temps de fermeture des salles et en attendant leur réouverture, eh bien on peut quand même découvrir des films sur vos chaînes, le Ciné Club Carlotta, la Cinéthèque et puis la chaîne YouTube Africa Show. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin, à la réalisation, Fanny Renard. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même cinéma. D'ici là, bonne semaine à tous.
Tous les cinémas du monde.